comblée. On va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours et à jamais changé et transformé à l'image de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, les enfants, tout le monde, vous avez entendu cela tantôt. Tout le monde à bord. On part. L'année 2006 commence. C'est déjà commencé. Donc, mais moi, je crois de tout mon cœur que le Seigneur a des grandes choses à faire dans son Église. Pas juste la vie comblée, mais dans son Église entière, dans le monde entier. Et il y a des choses qu'on ne veut pas manquer. Le train part et on veut être sûr et certain d'être à bord, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'il veut accomplir qu'on n'a jamais vues. Les personnes ont prophétisé même. Il y a quelques ans, j'étais dans une réunion et je sais qu'il y a des gens qui ont entendu même les prophéties qui ont été dites à propos de 2004 et 2005 et 2006. Et on a dit même que 2005 serait une année de superflu, mais aussi une année de jugement. Et on a vu cela. Mais on a vu aussi que les gens qui se sont jugés n'ont pas été jugés. Il y a d'autres qui ont eu d'autres expériences. Mais ceux qui ont prophétisé concernant 2006, il y avait beaucoup de gens, et même juste cette semaine, j'ai lu encore des choses, des personnes qui connaissent vraiment l'Esprit de Dieu. Et ils ont dit ceci, que l'année 2006, ça serait vraiment une année d'accomplissement. C'est-à-dire que des choses qu'on n'a jamais vues auparavant, on va les voir. La gloire de Dieu va se manifester comme jamais auparavant. On va voir des personnes sauvées comme jamais auparavant. Moi, j'y crois. Est-ce que vous croyez cela? Des miracles, des signes et des prodiges, toutes ces choses sont destinées pour 2006. Mais vous savez que une chose que j'ai appris, c'est que même si le Seigneur fait des choses, même s'il y a des membres du corps de Christ qui embarquent et qui vont partir avec le mouvement de l'Esprit Saint, qui vont suivre le plan de Dieu, il y a d'autres personnes qui vont pas le faire. On va aller à un autre niveau dans l'Église et dans l'Esprit en 2006. J'y crois. Sauf que moi, j'ai toujours cru que monter un autre niveau dans une Église, c'est comme prendre un ascenseur. Est-ce que vous avez déjà pris un ascenseur dans le passé? Hein, on pèse sur le bouton, l'ascenseur arrive, la porte s'ouvre. Et qu'est-ce qui se passe normalement? Surtout si on est dans un bâtiment, mettons à Montréal, il y a beaucoup de monde. Hein? Souvent, il y a des personnes qui vont débarquer avant qu'on embarque, n'est-ce pas? Puis on embarque, on pèse sur le bouton et on monte. Mais à chaque niveau que l'ascenseur arrête, il y a d'autres personnes qui embarquent, il y a des gens qui débarquent, n'est-ce pas? Mais c'est pourquoi moi je dis qu'il est important pour nous de savoir que le Seigneur veut qu'on monte, il veut qu'on aille de l'avant en 2006. Et soyez pas étonnés si vous voyez des gens débarquer. Parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir monter en haut. Il y a des gens qui vont dire, mais je sais pas, j'aime ça ici. Hein, ça me fait penser aux alpinistes. J'ai lu cela une fois, qu'il y avait quelqu'un qui était un alpiniste professionnel et il était comme un guide. Il aidait les personnes à faire de l'alpinisme dans les montagnes. Et il disait quelque chose d'intéressant parce que c'était vraiment une montagne haute. Et tout le monde au commencement, quand ils ont commencé la journée, ils regardaient, ils voyaient le sommet de la montagne et tout le monde disait, c'est là où je veux aller, je veux monter jusqu'en haut. Et souvent, ils partaient avec des groupes d'une trentaine de personnes à la fois et tout le monde commençait, tout feu, toute flamme, tout le monde est prêt à monter jusqu'à la sommet, sauf que à mi-journée, à mi-chemin, ils avaient un petit logement où il y avait un genre de cabane bien équipée avec un feu et il y avait de la nourriture et de la vraiment un temps de repos. Les gens pourraient prendre un café, un chocolat chaud et manger un repas pour reprendre la force avant de continuer jusqu'au sommet. Sauf qu'il a dit qu'il y avait un phénomène, quelque chose qui se passait sans exception, c'est que souvent, hein, il y avait presque la moitié du groupe qui disait, tu sais, on est bien. Ah, ça fait du bien de me relaxer. Donc, dans le fond, on a déjà fait la moitié du chemin. Je pense que on va juste laisser faire le sommet. On va rester ici, chanter un peu autour du feu. Et s'il y a des autres qui veulent aller jusqu'en haut, ils peuvent partir. Et quand ils descendent, ils peuvent nous rejoindre et on va descendre ensemble. Et c'est une vraie histoire, hein? Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Hein? La moitié du groupe part, commence à monter jusqu'à la sommet. Eux autres sont en train de jouer la musique et de chanter. Oh, c'est de fun, da, 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 da. Et ça, c'est vraiment de fun pour à peu près une demi-heure, une heure, il dit. Mais puis, après ça, il regarde par la fenêtre, il voit le restant du groupe en train de monter jusqu'à la sommet. Et souvent, il dit que l'atmosphère change dans la cabane. Les gens commencent à être des fois déçus. Ah, mais tu sais, je suis venu ici pour faire de l'alpinisme et d'aller jusqu'à la sommet et je me suis contenté à mi-chemin. Je me suis contenté là et voir les autres en train d'arriver et d'atteindre la sommet, de planter un drapeau. Et c'est comme, moi aussi j'aurais pu planter le drapeau avec eux. Moi aussi j'aurais pu dire à tout le monde, moi j'ai monté jusqu'à la sommet de cette montagne. Mais maintenant, il va falloir que je retourne et je dis à tous mes amis que j'ai monté jusqu'à la cabane, j'ai chanté les cantiques, j'ai bu un chocolat chaud, mais j'ai pas arrivé à la hauteur. Et dans l'Église, je sais que ça peut être le cas aussi. On peut monter jusqu'en haut, on peut aller jusqu'au bout, on peut faire tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire, ou on peut dire, on est bien ici, hein? Ces chaises sont belles, n'est-ce pas? Très confortable. Ah, oh, on est bien. Chante un autre chant, Jean-Charles. Un autre cantique. Prêche un autre sermon, Pasteur Ken. Ah, oh, ça fait du bien. On est arrivé. Mais laisse-moi vous dire, on n'est pas arrivé. On a à peine commencé. On est peut-être rendu à mi-chemin. Et c'est bon, c'est agréable, c'est de fun, mais c'est nécessaire. Hein, la cabane à mi-chemin, c'est nécessaire. On a besoin de se reposer des fois. On a besoin de se réchauffer. Mais puis, on a besoin de reprendre la force, de ranimer le feu et de monter jusqu'en haut, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi le message ce matin, tout le monde à bord? C'est parce que le train part. Amen. Et on va aller de l'avant. On va faire du progrès cette année. Et il y a des gens qui vont embarquer. Et j'ai vraiment hâte de voir, à la fin de l'année 2006, ma vision, ma passion, c'est de voir les visages des personnes que ce matin sont au lit. Ce matin, ils ont peut-être même mal à la tête parce qu'ils ont trop bu hier soir. Les gens qui sont désespérés ou... Mais peut-être il y a des gens qui sont contents, ils pensent que tout va bien dans leur vie, mais ils connaissent pas Dieu. Ma vision, c'est de voir ces gens-là assis avec nous l'année prochaine, hein, au début de 2007, si on est encore là, en train de louer le Seigneur avec les mains dans l'air, n'est-ce pas? Ça, c'est motivant. Mais si on va faire cela, si on va arriver, si on va pas juste se contenter de s'asseoir sur ces belles chaises confortables et de demander à Jean-Charles un autre chant et au pasteur un autre sermon, hein? Il va falloir qu'on prenne des décisions. Et en fait, il y a 5 choses qu'on veut souligner ce matin, qu'on a besoin de faire pour vraiment arriver à la destination que le Seigneur veut pour nous en 2006. La semaine prochaine, parce que d'habitude, le deuxième dimanche de l'année, je partage toujours les objectifs collectifs de l'Église. Qu'est-ce qu'on veut accomplir en tant qu'Église et en tant qu'Assemblée? Pourtant, ce matin, je veux mettre l'accent sur votre vie personnelle. Parce qu'une chose que je sais, c'est que si les individus dans une église ne sont pas déterminés, ne sont pas résolus On parle souvent des résolutions de la nouvelle année. Et souvent, il n'y a pas beaucoup de puissance là-dedans. Mais quand c'est appuyé par l'Esprit Saint, quand c'est dirigé par l'Esprit Saint, c'est inspiré de l'Esprit Saint, les résolutions peuvent être une bonne chose, n'est-ce pas? Comme Jésus qui a pris une résolution de se rendre à Jérusalem, la Bible dit. Il a fixé même son visage sur Jérusalem au moment donné dans son ministère et c'était comme plus rien comptait pour lui. Une seule chose compte, un seul but. Bientôt, on va commencer 40 jours, un seul but. On va avoir 2006, un seul but, c'est de faire la volonté de Dieu. Si tout le monde va être à bord, si tout le monde va partir avec ce train, si tout le monde va pouvoir voyager et voir toutes les choses que le Seigneur veut qu'on voit en 2006, première chose qu'il faut que vous fassiez, il faut déterminer votre destination. Il faut savoir où vous voulez aller en 2006. Il faut prendre un temps de réflexion. Posez-vous la question. Prenez le temps de réfléchir et de déterminer où vous voulez aller pendant les 365 jours qui s'en viennent. Hein? Commencez, si nécessaire, au 31 décembre 2006 et reculez. Commencez à la fin de cette année et reculer. Déterminer qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous voulez avoir accompli à la fin de cette année. Et puis, réfléchissez en disant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre pour pouvoir dire à la fin de l'année 2006 que j'ai accompli la volonté de Dieu. Commencez à la fin et reculer. C'est toujours une bonne chose à faire, n'est-ce pas? Et aussi, il y a un verset en Colossiens chapitre 1 qu'on peut lire qui dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. » Savez-vous que vous avez besoin d'être remplis de la connaissance de sa volonté? « En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable. » Est-ce qu'il y a des gens qui veulent marcher d'une manière digne du Seigneur en 2006? Voulez-vous être entièrement agréable à Dieu en 2006? Donc, il faut être rempli de la connaissance de sa volonté. En tout, et on continue, « portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. » Ça, c'est une bonne résolution pour 2006, n'est-ce pas? Donc, déterminez où vous voulez aller. Comme j'ai dit, la semaine passée, on va parler de qu'est-ce qu'on va faire collectivement, mais vous, individuellement, où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que le Seigneur veut que vous fassiez en 2006? Il y a une prière que vous pouvez prier hein, selon Psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » C'est une bonne prière pour nous, n'est-ce pas? Donc, déterminez votre destination. Tout le monde à bord, on part. C'est quoi la deuxième chose qu'on a besoin de faire? Mettez-vous sur le bon chemin. Hein? Si vous savez que vous voulez vous rendre à Québec, il faut prendre la bonne autoroute, n'est-ce pas? Ça ne donnerait pas grand-chose à prendre la mauvaise autoroute. Si vous voulez aller à Québec, il faut prendre la 20 et il faut aller direction est à Québec, n'est-ce pas? Si vous voulez à Montréal, c'est une autre direction. Si vous voulez aller à Granby, c'est une autre direction. À Victoriaville, c'est une autre route. Mais si vous voulez accomplir la volonté de Dieu en 2006, mettez-vous sur le bon chemin. Autrefois, on était tous sur le mauvais chemin, n'est-ce pas? Il y a un verset qui on parle de cela. En Éphésiens chapitre 2, verset 1, qui dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » Tout le monde dit « autrefois. » Selon le train, tout le monde à bord, hein? Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Vous savez, autrefois, nous étions dans un autre train, n'est-ce pas? Autrefois, nous étions dans le train du diable, on était en route pour l'enfer. Mais aujourd'hui, on est sorti de son train, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes content? Vous avez un billet pour le ciel, n'est-ce pas? Mais, même là, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'il y a des chrétiens qui peuvent être sortis du train du diable, mais ils sont en Jésus-Christ, mais il faut quand même qu'ils prennent une décision quotidiennement à suivre le Seigneur Jésus, à rester vraiment branchés à lui, afin de pouvoir se rendre à la bonne destination. Il y a un cheminement à faire avec le Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Et le cheminement que nous avons à faire compte, on pourrait dépendre de notre capacité de compter de l'Esprit Saint. Galates 5, 13, regardons ce verset. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour. C'est comment on dit par l'amour. Serviteurs les uns des autres. Voulez-vous être sur le bon chemin? Voulez-vous être sûr et certain d'être sur le bon track? Marchez dans l'amour et marchez dans l'esprit. En fait, l'apôtre Paul appelle l'amour la voie par excellence. Il dit ici, en verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, si on veut être sur le bon track, si on veut suivre le bon chemin en 2006, si on veut accomplir le plan de Dieu, si on veut arriver jusqu'au sommet, si on ne veut pas se contenter de la cabane à mi-chemin, il va falloir qu'on marche dans l'amour et qu'il faut qu'on marche selon l'esprit. Si on marche dans l'amour, automatiquement, on va faire la volonté de Dieu. Des fois, les personnes posent la question, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse en 2006. J'ai aucune idée. Et si le Seigneur ne vous a pas révélé un plan spécifique, peut-être le Seigneur ne vous a pas dit, hein, écris un livre en 2006 ou commence une commerce en 2006 ou fais partie de tel ministère en 2006, peut-être vous ne savez pas. Une chose que vous savez, et ça c'est vrai pour tout le monde, le Seigneur veut que vous marchiez dans l'amour. Il veut que vous aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Et il veut que vous marchiez selon l'esprit. Amen. C'est-à-dire que si on est dans la chair, on va manquer la volonté de Dieu. Donc c'est à nous de se juger soi-même, n'est-ce pas? En commençant avec moi et à vous autres aussi, jugez-vous vous-même. Posez-vous la question, est-ce que je marche dans l'amour? Est-ce que je marche dans l'esprit? Ou est-ce que je donne trop de place à ma chair? Si vous donnez trop de place à votre chair, je vous assure que vous n'allez pas arriver au sommet. Amen? Mais si vous marchez dans l'amour, l'amour nous presse, comme l'apôtre Paul a dit. L'amour nous presse. Et l'amour de Dieu va nous propulser dans le plein centre de la volonté de Dieu. Si j'aime mon épouse, je vais faire la volonté de Dieu par rapport à mon épouse, n'est-ce pas? Si j'aime mes enfants, je vais faire la volonté de Dieu par rapport à eux. Si j'aime mon voisin et les gens qui nous entourent, les non-croyants, si je les aime comme Dieu les aime, laisse-moi vous dire, je vais faire la volonté de Dieu. La compassion de Jésus-Christ va me pousser à imposer les mains sur les malades, à témoigner à ceux qui sont perdus, n'est-ce pas? Je ne peux pas rester inactif quand l'amour de Dieu brûle dans mon cœur. Êtes-vous d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est vrai quand même. Donc, déterminez votre destination, mettez-vous sur le bon chemin. Et troisièmement, n'embarquez pas tout seul. On ne fait pas ce voyage seul. N'est-ce pas merveilleux qu'on n'est pas en isolation, on est dans la compagnie des autres membres du corps de Christ. En Corinthiens 12, 20 dit, « Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » Laisse-moi vous dire que je vais dire clairement, personne ne va pouvoir mal entendre ou mal interpréter ce que je dis. Vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu pour votre vie en 2006 seul. Le plan de Dieu pour votre vie comprend une collaboration avec les autres membres dans le corps. Ma main ne peut rien faire sans le bras. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que ma main peut faire? Si je découperai ma main et je laisserai ma main sur l'estrade ce matin, qu'est-ce que ma main peut faire cette semaine? Mourir, n'est-ce pas? Dessécher. C'est à peu près la seule chose que ma main va pouvoir faire. Pourrir. Et un chrétien qui est détaché du corps va dessécher, va devenir pourri et va rester inactif, inutile et impuissant. Vous êtes d'accord? Donc, n'embarquez pas tout seul, mais choisissez vos compagnons. Mettez-vous ensemble avec des personnes dont vous avez besoin pour faire la volonté de Dieu. Commencez à développer des liens. Et je ne veux pas dire forcément qu'il faut juste faire des choses spirituelles et religieuses, mais développer les amitiés. On va faire cela même pendant 40 jours en seul but. On va passer plus de temps ensemble, n'est-ce pas? Une chose que j'ai entendue, j'ai écouté un MP3 la semaine passée, j'étais en train de pelleter la neige, je ne vais pas gaspiller du temps, donc j'ai écouté quelque chose. Souvent, j'écoute les prédications, mais cette fois-ci, il y a quelqu'un dans une église qui m'a donné un livre sur MP3. C'est pas un livre chrétien, mais c'est un livre pour les affaires, les commerces, etc. Mais il y a des principes qui s'appliquent même à l'église. Et dans ce CD, ça parlait des compagnies qui sont allées, ils ont été des bonnes compagnies, mais qui sont devenues les compagnies extraordinaires. En fait, le nom du livre, c'était « Good to Great », bon à meilleur ou extraordinaire. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Que souvent, dans ces compagnies, il y avait une certaine stratégie. Parce que souvent, on entend parler de la vision. Il faut décrire la vision. Il faut savoir où on va. Et je suis d'accord. Et je crois qu'il est important qu'on ait tous la même vision. Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est que dans plusieurs de ces compagnies, et ils ont comparé des milliers et des milliers et des milliers de compagnies, ils ont arrivé avec juste 11 compagnies qui ont réussi à devenir vraiment les compagnies extraordinaires. Je pourrais les nommer, tu connais ces compagnies. Parce que tu achètes le produit à presque tous les jours, probablement. Mais ces compagnies, ils ont commencé avec une optique différente. Ils ont dit, au lieu juste de décrire la vision, on va commencer en bâtissant une équipe. On va trouver les bonnes personnes et ensuite, on va être capable de faire la bonne chose ensemble. Ils ont dit que on peut changer des fois de direction dans un autobus. Mais si on est sûr et certain que tout le monde qui est dans l'autobus s'entend bien, tout le monde veut être dans l'autobus, tout le monde aime les autres passagers, tout le monde aime le conducteur, n'est-ce pas? Même si, à mi-chemin, on dit, tu sais quoi, on peut peut-être changer de direction, faire autre chose, tout le monde va être d'accord parce qu'ils s'aiment et ils veulent être ensemble. Et ils ont dit que, dans le fond, ils ont bâti les compagnies avec cette optique. On choisit la bonne personne et puis on peut développer son profil de poste, on peut développer sa fonction, on peut ajuster ses choses en route. Jésus a fait un peu ça, n'est-ce pas? Sa mission était claire pour lui. Sa vision était claire. Mais dans un sens, quand il a appelé ses disciples, quand il a dit « Suis-moi », les disciples ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils allaient faire. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas forcément la vision et la mission qui a inspiré ces gens à embarquer avec Jésus. C'est Jésus lui-même, c'était la personne de Jésus. Il voyait sa puissance, il voyait sa nature, il voyait qu'il était quelqu'un d'extraordinaire, n'est-ce pas? Et dans un sens, je pense que l'Église a besoin, sans jamais, jamais oublier notre vision, sans jamais mettre à côté la mission ou la vision de l'Église, mais on devrait quand même mettre l'accent sur le fait qu'on n'embarque pas seul, on a besoin de voyager ensemble, comme une seule plante, un seul corps, dans l'unité de l'Esprit, n'est-ce pas? Et si on va accomplir la volonté de Dieu pour nous en 2006, il va falloir qu'on embarque ensemble et qu'on marche dans l'amour. Regardons, il y a un verset 1 Pierre 1, 22 qui dit, « Et en purifiez vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment. » Tout le monde dit « ardemment ». C'est-à-dire avec un feu, les uns les autres, de tout votre cœur. Pierre a dit ceci en parlant des derniers jours, « La fin de toutes choses est proche. » Est-ce que vous le croyez? Soyez donc, parce que la fin de toutes les choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière, mais avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Est-ce que je peux vous donner une information? Je sais que ça va être étonnant, mais je peux vous assurer que au courant de l'année 2006, vous allez avoir l'occasion de pardonner quelqu'un. Quelqu'un va sûrement vous offenser. Quelqu'un va sûrement vous décevoir. Il y a quelqu'un qui va faire quelque chose qui n'est pas vraiment, vraiment qu'est-ce que vous avez voulu voir ou expérimenter. Mais c'est là où on aura l'occasion de dire, écoute, on voyage ensemble, c'est quand même un membre de mon corps, de ma famille, je prends une décision de l'aimer de tout mon cœur, et c'est l'amour de Dieu qui couvre une multitude des péchés. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prendre une résolution cette année de déterminer votre destination, de vous mettre sur le bon chemin et de n'embarquer pas tout seul, mais de marcher dans l'amour? Alléluia. Quatrième chose, tout le monde à bord, le train part. Attendez-vous à un bon voyage. Attendez-vous à un bon voyage. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire qu'il y a trop souvent qu'on fait l'erreur d'être tellement préoccupé avec la destination qu'on a qu'est-ce qu'on appelle la maladie de la destination. Et on a cette attitude et cette idée des fois que si seulement je peux atteindre mes objectifs, là je vais être heureux. Hein? Si une fois en 2006, peut-être vous avez comme objectif en 2006 d'avoir trouvé un emploi ou trouver un meilleur emploi, avoir une augmentation de salaire, acheter une auto, déménager, je sais pas trop, peut-être vous avez même dans le naturel les plans, les projets, les objectifs que vous avez à cœur. Hein? Chercher un permis de conduire, faire un voyage missionnaire, commencer dans un certain ministère. Peut-être vous avez ça comme objectif et c'est une bonne chose, c'est une bonne destination, un bon objectif. Mais si vous pensez que c'est seulement au moment que vous allez atteindre ces objectifs que vous serez heureux, là, laisse-moi vous dire que vous êtes déjà parti sur le mauvais chemin. Il faut savoir comment avoir un bon temps pendant le voyage. Le voyage est aussi important que la destination. Parce que sinon, hein, il y a des personnes, on voit cela souvent, « Oh, si seulement je peux me marier, une fois que je trouve la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, là, je vais être heureux. » Et ces personnes sont misérables parce que, pourquoi est-ce que tu es triste? Parce que je n'ai pas trouvé l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Penses-tu que la femme de ta vie va vouloir être avec toi? Tu es toujours de mauvaise humeur. Tu n'es jamais joyeux. Qui va vouloir être avec toi? Tu es toujours déprimé. N'est-ce pas? Oh, si seulement je peux avoir un emploi, c'est là je vais être content. Là, je vais être heureux. Là, je vais être dans la joie. Qui va vouloir t'embaucher? Hein? Parce que tu es, comment on dit ça? Marabout, hein? Tu fais la tête, tu es triste, frustré. Donc, il faut vraiment éradiquer la maladie de la destination. Et il faut prendre une décision d'avoir un bon temps pendant le voyage, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui part en vacances, quelqu'un veut faire un voyage en Floride. Il dit, une fois qu'on arrive en Floride, on va avoir un bon temps. Mais c'est de la misère. Pendant tout le voyage, vous avez manqué peut-être les choses, les moments les plus agréables en route, n'est-ce pas? Donc, on va décrire la semaine prochaine quelques objectifs, les choses qu'on veut faire en tant qu'Église en 2006. Mais avant de partir, voici le règlement. On va avoir un bon temps en route. On va pas être stressé si on regarde et on dit, « Oh, on est en retard! » On a dit qu'on allait arriver en Floride mercredi et oh là, je vois que ça va aller jusqu'à jeudi. Pas grave. On va avoir un bon temps, passer une belle nuit dans un bon motel quelque part et avoir un bon déjeuner le lendemain et on va avoir du fun, OK? Donc, on va mettre des objectifs, on va décrire même la semaine prochaine des objectifs assez, on pourrait dire, ambitieux, parce qu'on croit que le Seigneur veut faire des choses incroyables et au-delà de notre capacité de penser ou imaginer, n'est-ce pas? Mais on ne va pas se stresser avec ces objectifs, on va avoir du fun. Comme l'apôtre Paul a dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec quoi? Avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Moi, je crois que l'Église devrait, on devrait avoir du fun à l'Église. Dans votre vie personnelle, vous devrez avoir du fun. Je n'ai pas dit que ça serait toujours pas facile. L'apôtre Paul avait plein des occasions. Il était en prison, battu de verge, lapidé, naufragé, etc. La joie. Et nous, on peut être dans la joie aussi. On peut être dans la joie quand ça va bien, et même quand on a des défis. On va être dans la joie. On va avoir un bon voyage, n'est-ce pas? Regardez votre voisin et dites « bon voyage ». Regarde l'autre personne à l'autre côté et dis « bon voyage ». Mais restez là. Tout le monde à bord? Le train part. Vous avez tous entendu les trains de l'ancien temps et j'aime ce son, hein? Mais pourquoi est-ce qu'on peut avoir ce son? Ça vient d'où? Dans ces trains, on sait que c'est pas le diesel qui fait fonctionner ces vieux trains. C'est quoi? C'est la vapeur. Et si on va avoir la vapeur, il faut avoir de l'eau, mais il faut avoir quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Il faut avoir du feu, n'est-ce pas? Donc, ça donne pas grand-chose d'embarquer dans le train et tout le monde est là. Ouh, on sait où on va aller, on sait qu'est-ce qu'on va faire. On va faire telle chose cette année. Mais si on n'a pas de feu, ou si le feu n'est pas, ou l'eau n'est pas assez chaude, mais c'est juste tiède, ça ne marche pas. On va nulle part. Donc, ce matin, le Seigneur nous encourage, nous exhorte à augmenter le feu. Amen. Si vous voulez aller jusqu'au sommet de la montagne, augmentez le feu. Vous savez, si vous avez l'eau à 99 degrés Celsius, qu'est-ce qu'on a? On a de l'eau chaude, n'est-ce pas? Si on a de l'eau à 99,5, qu'est-ce qu'on a? On a de l'eau qui est encore plus chaude. Si on a de l'eau à 89,9, qu'est-ce qu'on a? On a de l'eau chaude. Hein? On devrait distribuer le thermomètre ce matin et prendre votre température spirituelle. Où est-ce que vous êtes rendu? Hein? Il y a quelques-uns de vous, je sais que vous êtes peut-être là, 99, même 9. Il y a d'autres, peut-être vous êtes rendu à 30 degrés, je ne sais pas. C'est le temps de mettre le feu et d'augmenter le feu. Pourquoi? Parce que aussi longtemps, on peut prendre l'exemple d'un train. Aussi longtemps que l'eau est à 99,9, le train ne bouge même pas. Mais si on monte juste une petite coche de la température et on atteint 100 degrés, qu'est-ce qui arrive? Cette eau se transforme en vapeur. Et la vapeur produit la puissance dont nous avons besoin pour bouger, n'est-ce pas? Alléluia! Donc, et souvent, c'est pourquoi Jésus l'a dit. Et c'est tellement important. Il a dit en Apocalypse, j'ai marqué ça dans vos notes, Apocalypse 3:15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de la bouche. Le Seigneur n'aime pas l'eau tiède. Il veut que ça soit bouillant. Parce que quand c'est bouillant, il y a de la force et de la puissance, n'est-ce pas? Donc, une église qui est tiède va nulle part. Une église qui est chaude, mais pas assez chaude, va nulle part non plus. Donc, des fois, tout ce que ça prend, c'est une petite affaire de plus, une bûche de plus, ou un souffle de plus. On va souffler sur le feu et le feu va augmenter. L'eau va bouillir. J'aime pas ce mot-là. Comment est-ce qu'on dit ça? Bouillir. Bouillir. It's gotta boil, man. Et l'engin va partir. Amen. Tout le monde à bord. Le train part. Mais laisse-moi vous dire que c'est à vous, c'est à chacun de nous d'amener le feu. D'amener le feu. Quand on vient à l'église, il faut que vous soyez en feu. Parce que votre feu avec mon feu, avec son feu, avec tous nos feux ensemble va faire en sorte que l'eau va bouillir. Et l'engin va partir. Amen. Alléluia. Il y a quelques versets qu'on veut lire là-dessus. Augmentez le feu. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Moi, je veux que l'Église soit en feu cette année. Et pour que l'Église soit en feu, il faut que vous soyez en feu individuellement. Vous avez une responsabilité de régler votre température. En fait, j'ai parlé des thermomètres tantôt, mais en réalité, ça fait partie du problème. Souvent, vous êtes en thermomètre au lieu d'être en thermostat. Un thermomètre va dire il fait froid ou il fait chaud. Un thermomètre va dire il va faire tant de degrés. Un thermostat, pardon. N'est-ce pas? Il peut faire moins 20 dehors, mais si on met le thermostat à une telle température, on peut régler, on peut changer la température à l'intérieur d'une pièce, n'est-ce pas? Et spirituellement parlant, il ne faut pas en 2006 que vous vous laissez influencer par les forces de l'extérieur. C'est-à-dire que si vous êtes face à face avec une épreuve, un moment difficile dans la vie, il ne faut pas laisser le feu refroidir. Il faut dire, non, je vais juste augmenter le feu. Alléluia. Amen. Je vais prier davantage. Je vais ranimer le feu de Dieu dans mon cœur. Je refuse de laisser refroidir le feu de l'Esprit Saint dans mon cœur. Imaginez, juste prenons une minute. Imaginons qu'est-ce que l'Église va avoir là si chacun de vous, vous devenez un thermostat cette année au lieu d'un thermomètre. Chacun de vous, à chaque jour de la semaine, pas juste le dimanche matin. Vous venez à l'église le dimanche matin, vous êtes en feu. Mais il faut être en feu lundi matin aussi. Je pense que j'ai entendu quelqu'un sur l'estrade dire cela avant la louange. Ça pète le feu, ça sent le boucan ici. Hein? Il faut que quand on vient à l'église, que les gens disent, « Hey, ça sent la boucan ici. Tout le monde est en feu. » Hébreux 6, 11 dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour garder ce feu, pour être zélé pour Dieu? Vous savez que le zèle, ça peut être une chose négative quand on est zélé sans une connaissance. Quand on est zélé pour la mauvaise chose, c'est pas bon, vous êtes d'accord? Mais quand on est zélé pour Dieu, quand on est en feu pour Dieu, et moi, je sais c'est quoi d'être en feu, et je sais c'est quoi d'être tiède, et laisse-moi vous dire, c'est plus de fun d'être en feu. Mais je sais aussi que, parce que ça va bientôt faire 30 ans que je suis chrétien, je sais que c'est ma responsabilité d'être en feu ou pas en feu. C'est pas une chose qui est déterminée par la température dehors, c'est pas une chose qui est déterminée par le comportement de mes frères et mes sœurs dans l'église, ce n'est pas une chose qui est déterminée par le comportement de ma propre famille ou le comportement des non-croyants. Moi, je vais déterminer que je vais être en feu pour le Seigneur en 2006. Et vous? Combien de vous voulez être en feu cette année? Il faut être zélé pour Dieu. Comment et pourquoi? Numéro 1, soyez zélé pour la parole de Dieu. Il faut qu'on soit zélé cette année pour la parole. Vous savez que ça, c'est notre nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Moi, j'ai vraiment une vision et un désir de voir tous les membres de l'Église dans la parole cette année. zélé pour la parole, affamé pour la parole. Moi, je sais que j'ai établi un petit règlement pour ma vie personnelle, c'est que si je n'ai pas déjeuné spirituellement, je ne déjeune pas dans la nature non plus. Hein? Pas de parole, pas de petit déjeuner. J'ai déterminé que même si mon corps physique dit souvent « Oh, mais laisse faire, tu as vraiment faim. » Si mon corps me dit que j'ai faim, je sais, c'est un bon indice que mon esprit a faim aussi. Et que la seule chose qui peut satisfaire mon esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. Et plus je mets la parole dans mon cœur, plus je serai en feu. Plus je suis zélé pour la parole, plus je serai en feu pour Dieu. Comme on voit en psaume 119, verset 16, « Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta parole. » Tout le monde dit « J'aime la parole de Dieu. » Et je prie que vous puissiez avoir une révélation, même ce matin, de l'importance de ce livre dans votre vie à tous les jours. C'est votre pain quotidien. Il n'y a pas grand monde qui irait une journée sans manger. Il n'y a même pas grand monde qui aimerait sauter un ou deux repas. Mais combien de fois on est prêt à sauter notre repas spirituel? Hein? On veut deux ou trois repas chauds par jour, mais on se contente de un petit snack froid par semaine. Mais ça ne devrait pas être le cas. Et cette année, je vous encourage, je vous lance le défi de lire la parole. En fait, ce matin, on a des dépliants. Je pense que Claude les a mis sur la table. Ici, c'est la Bible en un an. Et là, il y a un guide. Et vous pouvez lire un ou deux chapitres dans l'Ancien Testament par jour, un chapitre dans le Nouveau Testament et un psaume ou un proverbe par jour. Et ça prendrait, dépendant de la vitesse que vous lisez, entre 15 ou 30 minutes. Ça peut prendre plus si vous voulez. Mais je vous encourage à prendre cela, mais en sortant aujourd'hui, de vous engager. Je vais même peut-être demander aux gens, on va peut-être faire une feuille pour demander aux gens de l'Église d'écrire le nom en disant que cette année, je vais lire la Bible au complet. Ça serait le fun, n'est-ce pas? De savoir combien dans l'Église sont en train de le faire. Et on va peut-être avoir même une place, je suis en train de réfléchir à haute voix, une place où il y a des gens qui disent, mais je ne suis pas prêt à faire la Bible au complet, j'ai même pas commencé le Nouveau Testament. Là, vous pouvez vous engager au moins à lire le Nouveau Testament cette année. Amen. Mais combien de vous êtes convaincus que si tout le monde dans l'Église, à tous les jours, sans exception, on mettrait la parole dans notre cœur, que ça augmenterait le feu chez nous. Amen. Donc, ne quittez pas aujourd'hui sans avoir pris un de ces petits dépliants. Et c'est en ordre chronologique. C'est-à-dire que tu peux commencer en Genèse et puis à un moment donné, tu vas tomber en Job, même avant de terminer Genèse. Parce que Job, c'est en fait le premier livre de la Bible qui était écrit probablement. Et donc, ne soyez pas étonnés de voir que c'est pas dans un ordre comme vous êtes habitués, mais c'est en ordre chronologique. Mais je vous encourage à faire cela cette année. Et d'avoir un zèle pour la parole de Dieu. La deuxième chose, soyez zélés pour la puissance de l'Esprit. Moi, je pense qu'on a besoin d'avoir un feu dans notre cœur, un désir ardent pour l'Esprit Saint d'être en opération dans nos vies personnelles et dans l'Église. Amen. En fait, ce mot en 1 Corinthiens 14, 12, « Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons de l'Esprit, cherchez à être riche, surtout de ceux qui font progresser l'Église. » Mais ce mot « désirer avec ardeur », c'est vraiment littéralement, en grec, c'est le même mot qui veut dire « zélé ». Donc, on peut dire littéralement « puisque vous êtes zélé pour les dons de l'Esprit, puisque vous avez un feu et un désir ardent pour les dons de l'Esprit, désirez et ayez un zèle pour les choses qui vont édifier et bâtir l'Église. » Mais ça me montre une chose. C'est pas dans la Bible pour rien que la Bible dit « aspirez aux dons les meilleurs ». Soyez zélés pour les dons les meilleurs. Si une personne n'est pas affamée ou zélée pour les choses de l'Esprit ne vont pas se manifester pour lui. Amen. Donc, augmentez votre désir même de voir la personne de l'Esprit Saint et la puissance de l'Esprit Saint en manifestation dans votre vie. Vous savez, une des meilleures choses que vous pouvez faire pour augmenter le feu et votre désir pour les choses de l'Esprit, c'est prier dans l'Esprit. C'est-à-dire prier avec l'intelligence, mais aussi prier en autre langue. Et si vous ne priez pas encore en autre langue, même aujourd'hui après l'Église, on peut vous donner une occasion de recevoir ce don. Parce que ça, c'est la porte qui ouvre. Moi, je dirais que la prière en langue ouvre la porte à tous les autres dons de l'Esprit. Plus on prie dans l'Esprit, plus on est sensible à la présence de l'Esprit et plus l'Esprit Saint puisse se manifester avec puissance. Amen. Moi, j'aimerais voir l'Église, comme l'apôtre Paul disait, je remercie le Seigneur que je prie en langue plus que vous tous. Il disait ça aux Corinthiens et il voulait dire plus que vous tous mis ensemble. Et eux autres, c'était un paquet de prières en langue. Il y avait des problèmes. Il y avait beaucoup de problèmes dans cette église. Mais une chose qu'ils avaient, la Bible dit, ils manquaient aucun don. Et moi, j'aimerais être une église qui ne manque aucun don, mais qui est équilibrée avec le fruit de l'Esprit aussi. Intéressant, n'est-ce pas? On pense à une colombe. Le Saint-Esprit est souvent représenté sous forme de colombe. Vous êtes d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est la vérité. Mais vous savez qu'une colombe a 9 plumes sur une aile et 9 sur l'autre, les plumes de vol, de flight feathers, on dit. Et c'est intéressant parce qu'il y a 9 caractéristiques du fruit de l'Esprit qui sont décrites en Galates chapitre 5 et 9 dons de l'Esprit qui sont décrits en Corinthiens chapitre 12, n'est-ce pas? Et je crois que pour être équilibré dans l'Esprit, il faut développer le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Si on n'a que le fruit, on va tourner en rond. Hein? Moi, j'avais un perroquet quand j'avais peut-être 12 ans. Et tu sais qu'on peut couper les plumes pour qu'ils ne puissent pas voler. Moi, j'ai coupé juste un côté. Hein? Et lui, c'est ça. Il pouvait voler un peu, mais il volait dans notre salon, mais toujours en cercle. Il ne pouvait pas faire de progrès. Hein? Et c'est la même chose spirituellement. Si on n'a que le fruit de l'Esprit, on va manquer quelque chose. Mais si on n'a que les dons de l'Esprit, on va manquer quelque chose. On a besoin des dons de l'Esprit et le fruit de l'Esprit ensemble. Et il faut avoir un zèle pour les fruits de l'Esprit et un zèle aussi pour les dons de l'Esprit. Amen. Puis, numéro 3, soyez zélés aussi pour les bonnes œuvres. Regarde bien ce verset, c'est tellement fort. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Est-ce que vous êtes content? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Vous savez, on est sauvés par la grâce, mais la grâce nous enseigne à renoncer aux choses mondaines et à vivre dans le siècle présent. Tout le monde dit dans le siècle présent. C'est pas pour le ciel, c'est pour aujourd'hui. De vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartient. Est-ce que vous appartenez à Jésus? Purifié par lui et zélé. Tout le monde dit zélé. Pour les bonnes œuvres. Vous savez que le peuple de Dieu est destiné à être un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Pas un peuple qui se contente de s'asseoir sur la belle chaise dans la cabane, chantant les cantiques en disant « Wow, on a fait du progrès, n'est-ce pas? On a vraiment fait du progrès. » C'était du fun. Quand est-ce que le Seigneur va venir? Je ne sais pas. Oh, Seigneur, vienne. Chante un autre cantique, Jean-Charles, prêche un autre sermon, pasteur. Non, ça, c'est pas l'image d'une église en feu. Une église en feu dit, merci Seigneur, on peut chanter, on peut écouter les messages pour être ressourcé, pour être injecté avec une autre dose, on pourrait dire, de la parole, pour nous aider. En fait, quand on vient à l'église le dimanche matin, ça, c'est pas votre nourriture pour la semaine. C'est dans un sens, je vous lis le menu. Je vous montre qu'est-ce qu'il y a à manger cette semaine et c'est à vous de commander et chez vous, dans votre propre temps, de votre propre gré, d'aller fouiller dans la parole de Dieu. Le berger amène les brebis au vert pâturage et c'est à eux de manger, n'est-ce pas? L'œuvre du berger, c'est ça. Il conduit les gens, il dit, voici une bonne place pour manger, maintenant mangez! Et quand vous venez le dimanche, on dit, voici qu'est-ce que l'Esprit dit à notre Église. Et voici quelques versets qui parlent de ce sujet. Mais maintenant, pendant toute la semaine, chez vous, mangez. Mangez. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que quand vous faites cela, vous allez être en feu. Et vous allez voir dans la parole, et vous allez voir dans l'esprit que Dieu vous a préparé. Nous sommes son ouvrage et on a été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance. Et quand vous savez qu'à tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche aussi, on est destiné à faire des bonnes œuvres pour Dieu. À tous les jours, pas juste le dimanche, mais à tous les jours, n'est-ce pas? C'est pourquoi Éphésiens 6, 15 dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Intéressant, il n'a pas dit « Mettez pour pantalon le zèle pour vous asseoir à l'Église. » Il ne parle pas d'un pantalon pour vous asseoir, il parle d'un soulier pour marcher, d'aller, n'est-ce pas? Personne n'est sauvé pour s'asseoir, on est tous sauvés pour servir. Et cette année, on devrait être zélés comme jamais auparavant pour ces bonnes œuvres. Seigneur, tu m'as préparé pour des bonnes œuvres. Je veux être en feu pour ces bonnes œuvres. Je ne veux pas être à 99,9 degrés, mais je veux être 100 degrés au-dessus. Je veux faire de la vapeur. Je veux faire bouger ce train. Amen? C'est votre feu qui va faire bouger le train. C'est pas le feu du pasteur parce que j'ai pas assez de feu juste à moi-même. Pour faire bouger tout le train. Moi, j'ai assez de feu pour ma vie. Vous avez assez de feu pour votre vie. Mais quand nos vies viennent ensemble, le train bouge, n'est-ce pas? Et c'est merveilleux de penser à ça. Galates, chapitre 4, 18, dit ceci. Il est beau d'avoir du zèle. Il est beau d'avoir du zèle, n'est-ce pas? Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Tout le monde dit en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Savez-vous qu'il est facile, il est plus facile, et même des fois, je vois que même le dimanche matin, hein, on peut chanter, on a une belle équipe de louanges qui chante et joue la musique, et on peut chanter, on peut pousser des cris, on peut taper les mains. Ouh, c'est facile quand vous êtes dans la présence de vos conducteurs, n'est-ce pas? Quand le pasteur est en train de prêcher, de dire que vous êtes plus que vainqueur, que Jésus vous a racheté de la malédiction de la loi, que Christ est en vous et plus grand celui qui est en vous que celui qui est dans ce monde. C'est facile d'être en feu et de dire « Wouh! » C'est vrai! Mais quand je ne suis pas présent, quand l'équipe de louange n'est pas présente, il faut avoir autant de zèle. Amen? Parce que le train doit bouger. 7 jours sur 7, pas juste le dimanche et le mercredi soir, n'est-ce pas? Imaginez l'église comme un train. Si on ne bouge que le dimanche et puis on arrête du lundi au mercredi, on bouge un peu plus, puis on fait deux pas encore dimanche prochain et un pas mercredi suivant. Là, on ne va pas loin, vous êtes d'accord? Mais si lundi jusqu'à samedi, incluant le dimanche, vous êtes en feu, vous êtes zélé pour les bonnes œuvres, zélé pour la parole et zélé pour l'esprit. Ce train va bouger et on va faire du progrès. Et on va atteindre le sommet de la montagne. Amen. Apocalypse 3, 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et lui avec moi. Donc, si on peut avoir un peu de musique, on va prier ce matin. Tout le monde à bord. Le train part. Moi, je crois vraiment que on va avoir du fun pendant ce voyage. Déterminez votre destination et faites cela cette semaine. Prenez quelques minutes, quelques heures cette semaine. Réfléchissez. Seigneur, qu'est-ce que je veux faire cette année? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écrivez sur papier la vision que vous avez pour votre vie personnelle. Établissez les objectifs. Mettez-vous sur le bon chemin, c'est-à-dire la voie par excellence et la voie de l'amour. Aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même et vous allez faire la volonté de Dieu. N'embarquez pas tout seul, mais sachez que il faut développer les liens avec les autres membres du corps, parce qu'on va faire ce voyage ensemble. Attendez-vous à un bon voyage. Ça ne serait pas un voyage pénible, mais ça serait un voyage de joie. Pas toujours facile, on aura des défis. En faisant l'alpinisme pour aller au sommet, des fois, c'est rigoureux. C'est même épuisant des fois. Mais avec la force de l'Esprit, à la joie de Dieu, n'oubliez pas, la joie de l'Éternel sera notre force. Amen. Puis augmentez le feu. Chacun de vous, vous êtes responsable pour votre feu. Et votre feu, avec mon feu, et tous nos feux ensemble, vont faire en sorte que ce train va bouger. Et ce train va accélérer. Et ce train va atteindre ses objectifs. Amen. Soyez zélés. Soyez zélés cette année pour la parole, pour l'Esprit et pour les bonnes œuvres. Merci Père Céleste. Au nom de Jésus, je te remercie que nous avons la joie, l'honneur et le privilège de partir ensemble, de cheminer ensemble. Merci Père. Avec tous les yeux fermés, est-ce que vous entendez le cri du conducteur ce matin? Tout le monde à bord. Tout le monde à bord. Le train part. Et peut-être, il y a des gens ici, je ne sais pas, mais à chaque dimanche, je viens de donner l'invitation. Il y a peut-être quelqu'un qui est toujours dans un autre train. Le train de ce monde. Le train de ce monde qui est vraiment un train de rébellion. C'est le train de Satan qui mène à l'enfer. Et si c'est le cas, vous avez une bonne nouvelle à entendre ce matin, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et quiconque croit en lui ne périsse point, mais tous ceux qui croient en lui vont recevoir la vie éternelle comme un don gratuit. Et si vous voulez, tu peux confesser avec ta bouche le Seigneur Jésus et croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé. Et le Seigneur va te transporter de ce train de ce monde et il va te mettre dans le train de son Fils bien-aimé, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et tu vas pouvoir partir à zéro, commencer une nouvelle vie, un nouveau départ aujourd'hui en Jésus. Je suis avec les yeux fermés, je veux savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, « Pasteur, moi je ne sais pas si j'ai la vie éternelle ou non, mais je veux savoir avant de quitter aujourd'hui que je suis dans le bon train, que j'ai mon billet pour le ciel et que je suis sur le bon track. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main en disant, « Prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus ce matin. » Je te lève la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sais qu'on n'a pas beaucoup de visiteurs ce matin et ça se peut que tout le monde qui est ici est déjà sauvé, né de nouveau. Mais le cri du conducteur résonne quand même dans nos oreilles ce matin. Tout le monde à bord! Jésus revient bientôt. Mais avant qu'il vienne, on a des œuvres à faire. Et Dieu veut un peuple zélé pour ses bonnes œuvres. Et ce matin, j'aimerais que vous preniez une résolution, une décision d'embarquer dans le train, déterminer votre destination, vous mettre sur le bon chemin, embarquer avec vos frères et vos sœurs, de vous attendre un bon voyage dans la joie et puis d'augmenter votre feu qui va faire bouger le train au nom de Jésus. Priez cette prière avec moi. Père Céleste, je veux te servir en 2006. Je veux embarquer. Je veux être en feu. Je veux être zélé pour ta parole, pour ton esprit et pour les bonnes œuvres. Je suis responsable pour mon feu. Je refuse de laisser mon feu refroidir à cause des forces extérieures. Mais je détermine dans mon cœur d'être un thermostat et de monter la température au-dessus de 100 degrés pour faire bouger ma vie et mon Église, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux juste savoir s'il y a quelqu'un ce matin qui dirait dans son...